un temps, à Bulcourt et ses environs dans le Pas-de-Calais, tous les écoliers connaissaient l'hymne national de l'Australie. Ils l'apprenaient à l'école pour la chanter lors de l'Anzac Day, la journée de commémoration des soldats du Commonwealth. Aujourd'hui, les écoliers ne connaissent plus cette chanson. Mais le souvenir des Australiens de la bataille de Bulcourt persiste. Ce sont eux qui gagnèrent le combat contre les Allemands en 1917. Ce pan de l'histoire locale, longtemps oublié, a été littéralement exhumé par des citoyens dans les années 80. Alors que j'étais en résidence de journaliste dans la région au printemps dernier, j'ai travaillé avec deux classes de CM1, CM2 et leurs enseignants, de l'école d'Ennecourt-les-Canicourt et de Riencourt-les-Canicourt. Nous avons enquêté en vrais journalistes et nous avons réalisé une galerie de guerre. Des portraits d'individus, qu'ils aient vécu la guerre ou qu'ils en aient perpétré le souvenir, qu'ils soient français, australiens ou même japonais. Cette galerie, la voici. Vous allez y rencontrer une quinzaine de personnages d'hier et d'aujourd'hui, dont le destin n'aurait pas été le même sans la guerre et cette bataille de Bulcourt.
Donc je m'appelle Hélène Bulot, donc je suis enseignante en CM1, CM2 à Riencourt-les-Canicourt.
Alors Patrick Bénet, je suis directeur d'école à Ennecourt-les-Canicourt, au niveau d'un RPI. C'est-à-dire qu'on a plusieurs écoles qui sont réparties sur plusieurs communes et la liaison entre les communes se fait par bus scolaire. Dans notre région ici, il y a eu de très importants combats en 1917, en 1918, avec des Canadiens, des Australiens et des Anglais, puisque les Français avaient en charge la zone plus à l'est de Cambrai. Et entre la côte de la Manche et cette région ici, c'était les Anglais qui étaient chargés de protéger la région. Donc il y a eu de nombreuses batailles qui se sont déroulées, qui sont un peu tombées dans l'oubli, mais que les Anglais, les Australiens, les Canadiens connaissent très bien, c'est-à-dire par exemple la bataille de Bulcourt qui avait eu lieu en 1917, la bataille d'Arras aussi qui était en 1917 et Vimy, et après en 1918 ce sont les Canadiens qui ont pris la relève et qui ont libéré en fait tout le territoire entre Arras et Cambrai pratiquement.
Alors les enfants du secteur sont relativement intéressés par la Première Guerre mondiale, vu le passé historique du secteur. Et on leur en parle depuis qu'ils sont tout petits, ils ont les traces sous les yeux tous les jours aussi. Ben forcément, ça les intéresse, ils sont très touchés par cette période et n'oublient pas, ils se rendent régulièrement aux commémorations.
Le puzzle de la bataille de Bulcourt commence avec Jean Letaille et ses amis. Dans les années 80, un groupe de citoyens de Bulcourt et des villages environnants a sorti de terre l'histoire de la bataille de Bulcourt, tombée dans l'oubli depuis 70 ans. Groupés autour de Jean Letaille, un agriculteur et de sa femme, ainsi que de l'instituteur du village, ils ont créé un musée pour exposer les objets de la Première Guerre mondiale qui parsemaient les champs. Ils ont aussi noué des liens avec un pays lointain, l'Australie. Les enfants du RPI ont interviewé des témoins de cette histoire dans l'histoire.
Bonjour Monsieur Delattre.
Bonjour.
Je suis un élève de l'école de Riencourt-les-Canicourt et je voudrais vous poser des questions sur votre carrière, etc.
D'accord, c'est bien.
Tom, Paul, Aurélien et Monsieur Delattre, le faiseur de monuments.
Quel est votre métier ?
Je suis retraité maintenant, mais j'ai travaillé à Finimétal, à BH, radiateur.
On a trouvé Monsieur Delattre avec son monument, la Petite Croix.
Il a montré la médaille, il nous a montré des photos avant, après, pendant la guerre.
Pourquoi avez-vous eu envie de créer ce monument ?
C'est-à-dire que avant de partir à l'armée, j'ai travaillé dans des fermes. Et on trouvait beaucoup de ferrailles, même des corps. Et ça m'avait déjà choqué de voir tant de ferrailles dans le village. Après mon service, j'ai travaillé à l'usine, on a trouvé un livre sur la vie de Bulcourt, enfin les combats. C'est Durand qui a trouvé ce livre et il l'a traduit parce que c'était en anglais. Alors après avoir traduit, on a vu qu'il y avait des combats. Puis M. Durand faisait partie du Souvenir français. C'est une société, tous des amis qu'on restaure tous des monuments. Du coup, avec le Souvenir français, ils ont décidé de faire une stèle dans le village. Je l'ai fait parce que je maçonne un peu. Chez moi, j'ai toujours maçonné. Alors, on l'a fait ensemble avec M. Letaille. Et ils ont mis des plaques, tout ça. Je pensais même pas que ça aurait duré si longtemps que ça.
Pourquoi êtes-vous intéressé à ce métier ?
C'est-à-dire que, par respect qu'ils ont venu combattre ici, par remerciement, il fallait faire quelque chose.
Vous avez une médaille, un médaillon.
Oui, oui.
Vous pouvez nous la montrer ?
Bah oui. Ben, c'est-à-dire, c'est un remerciement d'avoir fait les monuments. Quoi.
Par qui?
Par les Australiens, là.
C'est l'État d'Australie qui nous a remis cette médaille.
Ouais.
Et la France vous a remis des médailles
Non. Non, mais les souvenirs français remet des médailles aussi pour le travail qu'on fait.
Moi, c'est mon frère qui m'a appris ça parce qu'il est fan de guerre et puis il a eu un détecteur et puis il a retrouvé plein d'obus et tout, des balles de tank, il a même trouvé une fois.
On nous a tout expliqué sur le monument, sauf qu'on ne savait pas encore que c'était Monsieur Delatte qui l'avait créé.
Je le regarderai plus de la même manière parce qu'il l'a fait pour les autres, pour les soldats. Puis il n'y en a pas beaucoup qui l'auront fait. Et puis faut avoir du courage pour se battre pour la France, que c'est même pas son pays.
Et nous, on doit les remercier et on s'en souviendra toujours.
Alors il y a plusieurs personnes qui se sont penchées sur cette histoire. La première, c'est Madame Durand et Monsieur Durand, qui étaient des enseignants ici sur Hennecourt, il y a une trentaine d'années maintenant. Et en arrivant, ils se sont rendus compte que cette zone était une zone de combat, mais qui était un peu tombée dans l'oubli parce que les gens de la région avaient été évacués en 1917 par les Allemands. Et donc, ils retrouvaient énormément de traces de ces combats, des douilles d'obus, des balles, etc., que les gamins ramassaient pendant leur journée.
Émilie, Marion, Manon et Madame Durand, l'amie des Australiens.
Chère Madame Durand, à l'école, nous travaillons sur les portraits de la guerre 14-18. Nous voudrions vous interroger sur les soldats australiens. Dans l'attente de votre réponse, nous vous remercions à l'avance, cordialement. Mesdemoiselles, c'est avec un grand plaisir que j'essaierai de répondre à vos questions sur les soldats australiens qui ont combattu sur ces terres, qui aujourd'hui sont des champs en paisible. Je suis à votre disposition pour choisir une date. Au plaisir de vous rencontrer cordialement. Où êtes-vous né?
À Tunis, en Tunisie.
Quel était votre métier?
Eh bien, j'ai fait classe ici, dans cette classe-là, depuis 1972 jusqu'en 1998.
Quel est votre rapport avec les Australiens et pourquoi vous... Êtes-vous intéressé à cette histoire?
Eh bien, quand nous sommes arrivés ici, il y avait beaucoup d'enfants de votre âge qui revenaient à l'école avec des boules en plomb, avec des morceaux de choses en ferraille. Ils revenaient avec des choses, ils allaient dans les champs, ils ramassaient des reliques, comme disaient les Australiens, des vestiges de la guerre. Et quand ils avaient la chance de tomber sur des têtes d'obus en cuivre, ils étaient tout contents parce que ça leur permettait d'acheter des vélos. On a trouvé des badges et beaucoup de soleil levant. On a demandé à la commission des cimetières britanniques qui nous a renvoyé sur un monsieur qui était collectionneur et qui nous a prêté un livre qui est l'historique de toute la guerre. Donc mon mari a traduit ce qui concernait Bullecourt, c'est-à-dire à peu près... 200-250 pages. Enfin, il a traduit mot à mot pour nous. Mais après, il en a fait un condensé avec des cartes pour situer.
Est-ce que vous avez connu Jean Le Taille? Que pouvez-vous nous en dire?
Ah oui, j'ai connu Monsieur Le Taille, Jean Le Taille. C'est un homme merveilleux. C'est les choses de guerre l'intéressaient. Il collectionnait, comme beaucoup d'agriculteurs dans la région, tout ce qu'il trouvait dans les champs, il gardait. Et le fait qu'on s'y intéresse, ça fait le déclic. S'intéresse encore plus aux objets qu'il avait à approfondir et il est rentré là-dedans avec des deux pieds. C'était vraiment une passion. C'était comme son bébé, quoi. C'était vraiment très, très important pour lui. C'était quelqu'un de très, très, très intéressé, chaleureux. Vraiment, quelqu'un que j'aimais beaucoup.
En fait, tout ce qu'elle dit, c'est vraiment vrai. Je ne savais pas qu'elle savait autant de choses sur la guerre et tout. Mais je savais qu'elle savait beaucoup de choses. Elle a beaucoup de documentation et tout.
Maintenant, vous savez que vous prenez l'avion, facile. Mais dans les années 80, c'était pas si évident que ça. Enfin, 70, début 80. Donc, beaucoup de familles nous ont demandé de prendre des photos. Ils savaient qu'ils étaient disparus sur ce champ de bataille, mais ils n'avaient aucune idée de comment c'était, comment... Et les cimetières britanniques le faisaient, mais avec du temps, alors que là, c'était bien vraiment personnalisé. On prenait la photo de la tombe, là, le cimetière, un petit drapeau, des fleurs. On a fait des centaines de tombes, photographié des centaines de tombes pour des familles qui sont restées en relation avec nous pour beaucoup.
d'apprendre des choses, que travailler dessus, rien envoyer aux personnes, et puis faire des recherches sur Internet, c'est mieux de voir en vrai.
Par exemple, si on regarde sur Internet, on n'aura pas la même chose que c'est les personnes qui l'ont fait, qui le disent par eux-mêmes.
Est-ce que vous pensez que c'est important de connaître cette histoire et pourquoi ?
D'abord, c'est votre territoire, c'est chez vous que ça s'est passé. Et puis, ça nous a permis, je pense, au début, quand nous avons fait ces rencontres, de rencontrer d'autres personnes et de partager avec elles un souvenir. C'est peut-être très, très ponctuel, c'est pas la grande histoire, mais ce sont les petites histoires qui font la grande. Enfin, moi, je crois.
C'était une fois un agriculteur qui créa un musée à Bullecourt.
Nicolas et Jean Letaille, l'agriculteur philanthrope.
Ils recherchaient des objets de la Première Guerre mondiale pour créer un musée dans une de ses granges. Bah, il voyageait beaucoup en Australie puisqu'il était aimé là-bas. Parce que c'est sympa de retrouver des objets à eux qui se souviennent pas très bien. Ben, à eux, ils revoient ce qu'ils ont vu à la Première Guerre mondiale. Durant toutes ces années, il a rencontré beaucoup de personnes de toutes
les... Il y a combien d'habitants à Bullecourt ?
200 habitants.
Et il y a un musée.
Oui.
C'est pas bizarre pour un village de 200 habitants ? Donc du coup, le musée, qu'est-ce qu'il fait à la ville ?
C'est bien pour les habitants, pour les enfants, tout ça. Les Australiens qui viennent pour le musée. Bienveillant et amical, il leur manque beaucoup. Il est décédé en 2012. Moi, on échange un peu les pays pour découvrir des nouvelles choses.
Quel âge avez-vous ?
Alors, j'ai 31 ans.
Lily, Raphaël et Aurélie Le Cadet, conservatrice de musée.
On est allé le visiter l'année dernière avec les autres CM2 et nous, on était en CM1. Et on a vu des costumes de soldats, des casques, des canons,
des bouteilles en verre. Un équipement de secours,
des couverts,
des jeux, des dominos, des cartes, des rasoirs. Comment devient-on conservatrice de musée ?
Ah, c'est une très bonne question. Voilà. Donc, conservatrice, donc il faut à la fois... savoir accueillir le public et puis aussi savoir comment bien conserver les objets, voilà, comme le nom l'indique, conservatrice. Et parfois on a certains objets qui sont très anciens, on doit prendre des précautions pour les présenter, pour les manipuler. Donc j'ai suivi une formation quand j'étais étudiante pour justement apprendre à manipuler, à gérer une collection. Je n'imaginais pas que je travaillerais un jour effectivement dans un musée dédié à la Première Guerre mondiale avec tous ces objets, ces munitions, tout ce vocabulaire aussi militaire.
Elle est dans ce musée, donc je pense qu'elle le ressent aussi.
Comme si qu'elle était en train de vivre la guerre.
On a les tissus, quand on retrouve des objets, par exemple une gourde recouverte d'un drap de laine, on a encore des vestiges de tissus, ils sont très abîmés. Pour éviter qu'ils se dégradent encore dans le temps, faut les stabiliser, donc il faut qu'ils aient des conditions de conservation où il n'y a pas trop d'humidité, pas trop de lumière. On a également le papier, voilà, les vieilles photos. Il faut parfois faire des rotations parce que les photographies ont tendance à se défraîchir.
Quelle est votre relation avec la Première Guerre mondiale ?
Eh bien, à part... lorsque j'étais élève au collège ou lycéenne, j'avais pas vraiment de lien avec la Première Guerre mondiale. Mais en arrivant en Bullecourt, j'ai commencé à m'intéresser à tout cela. Voilà. Et on est reparti avec ma mère à Notre-Dame de Lorette retrouver la tombe d'un grand-oncle qui était mort dans l'Artois en 1915. J'étais très impressionnée par la mobilisation des habitants ici. Ça m'a beaucoup surpris. Il y a un engagement à faire émerger cette histoire et aujourd'hui la transmettre. Je suis très respectueuse de tout ça et je suis impressionnée.
Les livres ne savent pas forcément les choses qui savent les gens, comme les arrière-arrière-grands-parents qui ont vécu la guerre.
Ouais, ceux qui écrivent les livres n'ont peut-être pas vécu la guerre, mais ceux qui sont dans le musée ont peut-être vécu la guerre dans leurs sentiments.
Deuxième partie, des portraits aux quatre coins du monde. La guerre est une affaire d'individus. Ils étaient des millions de soldats, oui, mais chacun d'entre eux a une histoire. Certains ont même fait le tour du monde juste pour pouvoir aller mourir dans la plaine de Bullecourt. Cette guerre était bel et bien mondiale, et son souvenir l'est resté. Les enfants du RPI ont déployé toutes leurs antennes internationales pour le prouver.
Les villages ne sont pas connus par les Français, alors qu'en Australie, Bullecourt, Hendecourt, Canicourt, ce sont des lieux très connus pour eux, puisque ce sont les lieux de bataille qui ont permis soit à l'armée canadienne, soit à l'armée australienne de se constituer en corps de bataille et puis à revendiquer par la suite leur nationalité et puis leur indépendance par rapport à l'Angleterre. Donc pour eux, ce sont des lieux inscrits dans leur mémoire, puisqu'il y a de très nombreuses personnes qui viennent à l'occasion des fêtes, par exemple de l'Anzac Day à Bullecourt, des Australiens qui viennent régulièrement ici pour se rappeler tous ces événements. Au niveau du Canada, donc il y a un monsieur qui s'est intéressé, c'est monsieur Gravel, qui s'est intéressé à l'histoire locale, alors qu'à Canicourt, personne ne s'y intéressait. Et c'est lui qui a reconstitué un peu les combats autour de Canicourt, de Villers et d'Hendecourt, justement avec le corps canadien qui a percé la ligne allemande en 1918 et qui a permis aux Alliés de remporter la victoire un peu plus tard, au mois de novembre.
Bonjour, monsieur Gravel.
On monte la classe, monsieur Gravel.
On est à Hendecourt.
On est à Hendecourt, les Canicourt, exactement.
Maëlle, Mathis, Vinciane et Michel Gravel, l'historien local et canadien.
On a été au musée de Canicourt et les gens nous ont tous raconté Michel Gravel, qui connaissait beaucoup de choses, était un passionné d'histoire, tout ça, tout ça.
Je suis né le 11 septembre 1967, près de Longtemps.
Où habitez-vous précisément?
J'habite dans la capitale, Ottawa.
Quel est votre métier?
Je vends des toitures dans les industries.
Que pouvez-vous nous dire sur votre caractère?
Mon caractère? Une personne heureuse, un peu
têtue. Déjà, c'était une personne très sympa, très gentille. Je pensais que ça allait être, qu'il allait être plus vieux, comme monsieur et madame Topard. Ça s'est bien déroulé, en fait.
Pourquoi vous êtes-vous intéressé au village de Canicourt?
Mon grand-oncle était dans l'armée canadienne, et puis on ne savait pas c'était quoi qu'est-ce qu'il avait fait en France. Donc, j'ai fait des recherches et puis je me suis aperçu qu'il est arrivé, son premier jour au combat était à Canicourt.
Moi aussi, j'ai été très, très content. Et madame Topard, il avait dit qu'il était passionné d'histoire, qu'il connaissait mieux le château que monsieur et madame Topard.
On dit au revoir à monsieur Gravel.
Au revoir, monsieur
Gravel. Au revoir, les enfants.
Et s'il vient à l'école, vous serez content de le voir?
Ah, très très content, oui.
Je le verrai en vrai, et puis comme ça, on pourra faire une interview, mais en vrai.
Déjà, ça me dit qu'il habite à la capitale du Canada, Ottawa, c'est une grande ville. Et qu'il s'intéresse à un petit village, c'est choquant, quoi.
C'est bizarre, parce que normalement, c'est à l'autre bout du monde. Il aurait pu s'intéresser à un village de Canada. C'est plus proche, mais il a choisi d'aller en France.
Donc au départ, les personnes sont inconnues, donc il faut il faut déjà chercher des contacts, rebondir. Donc c'est aussi leur montrer que toutes les réponses ne sont pas toujours accessibles, et puis que parfois il faut abandonner certaines idées et puis en chercher d'autres, trouver des ressources aussi. Ça c'est important, hein. On allait de numéro en numéro. Et les gens répondaient positivement, ça c'était vraiment très intéressant. Parfois, comme on s'occupait de certains portraits de personnes étrangères, des Australiens, des Canadiens, donc les textes étaient parfois en anglais, donc c'est pas grave, on cherche, on a des dictionnaires, on a Internet, on a tout, on a une maîtresse aussi, puis Hélène qui se débrouille très bien en anglais. On n'est pas limité et puis qu'on peut toujours chercher, ça ne coûte rien.
Chercher des informations et tout, quand on cherche sur Internet, sur les fiches, des journaux.
C'est des personnes qui nous ont prêté, qui le connaissaient, qui nous ont prêté des informations. Madame Durand, et elle est très intéressante, cette dame.
Parfois, les week-ends, il y a des bus australiens qui vont chez elle.
Notre maîtresse est sûrement allée la voir et elle lui a donné les documents.
Constance, Graziella et Jack White, l'histoire triste d'un papa aimant.
Jack White était un guerrier australien qui est mort au cours de la bataille de Bullecourt. Son corps n'a été retrouvé qu'en 1995 par hasard.
Je savais pas que c'était vraiment comme ça, qu'il fallait vraiment qu'il se déplace en bateau.
Né en 1889, Jack White était un forgeron.
On n'était pas sûr qu'ils allaient revenir dans leur pays et revoir leur famille. Donc.
Et là, il ne l'a pas revu, ça va.
Il était marié avec Liliane White et il avait deux enfants, Colin et Myrthe.
On suppose qu'il avait de très bonnes relations avec eux, car une lettre qu'il a adressée à sa fille a été retrouvée.
We fondest love for my little baby from her living daddy.
Ce qui veut dire avec mon amour sincère pour ma petite fille de la part de son papa aimant.
Moi, j'aurais pas aimé avoir la sensation des enfants qu'ils ont eu parce qu'ils ont plus revu leur père, alors ça a dû être triste. Cette lettre, il l'a écrite en 1916 depuis la France où il combattait dans le 22e bataillon. Mais il ne reverra jamais ses enfants.
Malheureusement, il sera tué le 3 mai 1917 dans la bataille de Bullecourt.
Son corps n'a été retrouvé que le 8 novembre 1995, presque 80 ans après.
C'est Marc Bastien, un retraité d'Hénin sur Cojolles, avec un détecteur de métaux qui l'a découvert.
Il a donc été enterré un mois plus tard au cimetière de Kéan.
Sa fille Myrthe, âgée de 80 ans, était venue depuis l'Australie pour l'occasion.
Everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Some people lost some bread. Someone nearly died. Someone just died. Police, they come, army, they come.
En fait, c'est resté très franco-français, cette guerre de 14-18, alors que c'était une guerre mondiale.
Tokutaro Iwamoto est né le 6 mai 1881 au Japon, à Hiroshima.
Dans les portraits qu'on a dressé, eh bien, on a même un Japonais qui était natif d'Hiroshima, qui est venu se faire tuer ici sur Villers-les-Canicourt. Alors on a reconstitué un peu son parcours. C'est un peu une façon de leur rendre hommage aussi à tous ces jeunes qui sont venus se faire tuer.
Pierre, Camille, Colline, Léane et Tokutaro Iwamoto et Arthur George Knight, deux citoyens du monde du siècle dernier.
Il y a été formé à Calgary, qui se situe au Canada. Il s'est inséré lui-même dans l'armée canadienne, dans le 10e bataillon.
Puis, il a été envoyé par bateau en Angleterre.
qui viennent du Japon faire le tour du monde, tout ça. En plus, avant, on avait des avions, mais il n'y en avait pas pour tout le monde. Je trouve que c'est quand même impressionnant. Et puis, c'est quand même touchant qu'ils viennent pour nous, pour se battre pour la France. C'est important et il faut se souvenir de ça. Il ne faut pas l'oublier.
Iwamoto a atterri à Vimy. Il a combattu là-bas et il est mort à Villers-lès-Cagnicourt en 1918.
Il fit preuve d'un très grand courage et d'une très bonne volonté.
C'est peut-être pas leur couleur des yeux, tout ça, mais c'est pas mal de choses sur eux, sur leur physique.
On les a que rencontrés en photo.
Qu'est-ce qui vous manquerait là pour bien les connaître ?
Je parle un peu en près pour vraiment voir les petits détails sur eux.
L'histoire et la bravoure de Arthur George Knight.
Le sergent Knight commanda une section d'armes de bombardement lors des combats sur Villers et à plusieurs reprises tout seul. Il attaqua ses ennemis avec courage, ce qui fit avancer sa section.
Quelquefois, faire tout le tour du monde que pour la guerre. Encore pour aller voir des proches qu'on n'a pas vus depuis longtemps, peut-être, mais pour la guerre, et peut-être on va mourir là-bas. Donc.
Bah, moi, je trouve que tous les deux, ils avaient un gros cœur, et puis bah, avant, je crois que c'était obligé, mais ils sont allés d'eux-mêmes dans l'armée.
Il est enterré au cimetière de Mignon.
Il a été récompensé par la croix de Victoria.
Il vivait en Angleterre. De ce fait, on apprend, on connaît de plus en plus de personnages, on connaît leur histoire, tout ça. Et puis avant, on savait pas que des fois, ils libéraient nos villages en une personne.
C'est ce qu'elle disait, Madame Durand. Il y a la grande histoire et il y a les petites histoires. Et c'est les petites histoires des gens qui font la grande histoire, tous assemblés. C'est la petite histoire de Tokutarō, plus la petite histoire du sergent Knight, plus la petite histoire de Burdon McKean, plus la petite histoire de Michel Gravel, qui a rendu Burdon McKean connu, etc. C'est plein de petites histoires qui construisent la grande histoire, tous ensemble, comme un puzzle, en fait.
C'est un petit peu logique, que c'est comme un puzzle. Si on a un peu de pièces, ça fera un petit, et, ça, et beaucoup de pièces, un grand.
Plus que les années y passent, au plus le puzzle va...
Construit. And so, time when they go, time no wait for nobody, like that. Ah, but police go to come, army go to come, with confusion.
Ça leur fait peut-être prendre conscience de ce qu'on parle. On parle souvent de mondialisation. À l'époque, cette mondialisation, c'était pour le pire, malheureusement. Alors, dans leur avenir, j'espère que la mondialisation qu'ils nous bâtiront, elle sera un peu meilleure. Et justement, ça peut leur permettre de voir que le monde, c'est quelque chose de très petit. Et puis que déjà à cette époque-là, il y a 100 ans, les gens qui étaient venus ici, eh bien, c'était des gens du monde entier, puisque ce n'était pas seulement des Canadiens, des Australiens, mais il y avait des peuples du monde entier qui étaient venus combattre ici, en France, malheureusement contre d'autres peuples européens. Mais...
Was over 800,000 men when the books were closed in 21 and 22.
Je pense que ça peut les marquer, puis que ça peut peut-être dans leur mémoire plus tard porter des fruits pour permettre une meilleure appropriation de la mondialisation et dans le bon sens.
Have you news of my boy Jack? As-tu des nouvelles de mon fils Jack ? Ici mis en musique par Andrew King, c'est un poème que Rudyard Kipling a écrit après la mort de son fils sur le front en France en 1915, 4 ans après avoir écrit pour ce même fils le fameux « Tu seras un homme, mon fils », un texte destiné à le pousser à s'engager sur le front. Le souvenir de cette bataille mondiale de Bullecourt et celui de la guerre sautent aux yeux dans les villages du Pas-de-Calais. Musée, oui, mais aussi bistrot aux couleurs de l'Australie, fanions, affiches, sans oublier les innombrables cimetières aux multiples nationalités. Dans cette troisième partie, on rencontrera quelques maîtres des lieux du souvenir.
Pour certains portraits, pour les personnes qui ne pouvaient pas se rendre à l'école, Hélène enregistrait les questions des enfants en amont à l'école, s'est rendue aussi au musée et au Canberra afin de passer les questions enregistrées à Madame Cadet et à Madame Delattre. Et elle enregistrait les réponses de Madame Cadet et de Madame Delattre dans la foulée, donc voilà, en aval. Et à la fin, elle a monté et les questions et les réponses des enfants, ce qui a fait que l'interview semblait couler de source et que les enfants avaient été mis en contact direct avec les personnes dont ils faisaient les portraits.
Ethan Sullivan et Sylvie Delattre, bistrotière internationale.
Quel âge avez-vous ?
55 ans bientôt.
Quel caractère avez-vous ?
Cool.
Où vous êtes né ?
À Hénin-sur-Cogel.
Quel métier faites-vous ?
Tenancière de café. À Bullecourt, 36 route de Douai.
Pourquoi avez-vous voulu faire ce métier ?
Tout simplement, on a repris le café de ma tante.
Pourquoi le café s'appelle le Canberra ?
Ben, nous avons appelé le café le Canberra pour la bonne raison qu'à l'époque, Monsieur Le Taille s'occupait déjà du musée à la mairie, et comme on avait repris le café en 89 et il n'avait pas de nom, on a voulu faire plaisir à Monsieur Le Taille. Alors au lieu de mettre café de la place ou café de la mairie, on a voulu faire plaisir à Monsieur Le Taille parce qu'il était à fond dans les Australiens déjà à l'époque. Tout juste, il n'avait pas les larmes aux yeux. C'était un symbole pour lui, il était heureux.
Vous intéressez-vous à l'histoire de la Première Guerre mondiale ?
On est bien obligé à Bullecourt, avec tout ça. Toutes les rencontres qu'on fait, automatiquement, ça discute. Et puis, on est dans un cercle. Non, parce qu'avant, à l'époque, moi, sur Hénin, je travaillais pour le maire du Touquet à l'époque. Donc, dans le journalisme, mais la guerre ne m'intéressait absolument pas.
Connaissez-vous des Australiens ?
Oh oui, beaucoup. J'ai plein d'adresses. Ils m'attendent là-bas. Par rapport au 25 avril, Anzac Day. Eh bien, ils sont tellement sympas qu'on fait connaissance au café le 25 avril et puis on s'échange nos adresses. Et puis, donc, ils nous attendent. Le jour qu'on ira en Australie, on n'a plus qu'à leur envoyer un email et puis ils nous attendent.
Êtes-vous déjà allé en Australie ?
Et non, malheureusement, non. J'ai un voyage qui m'attend depuis mes 50 ans, quand j'ai fêté mes 50 ans surprise. Mes clients m'ont offert on misait pour que j'aille en Australie. C'est toujours pas fait parce que mon mari, pendant ce temps-là, il a changé de travail. Donc on ira, j'espère, quand on sera à la retraite.
Est-ce que vous avez envie d'y aller ?
Oui. Je voudrais bien y aller, mais il faut attendre.
Qu'est-ce que vous espérez trouver là-bas ?
Voir déjà comment ils vivent. Moi, j'ai déjà des petits aperçus par mon voisin d'en face qui est allé il y a 2 ans, je pense. Donc, il nous a raconté, il nous a fait voir des photos, tout ça. C'est un truc à faire, quoi, et à vivre.
On a fait un questionnaire. On a essayé de lui envoyer chez lui. Après, il nous l'a rendu et on l'a ouvert.
Benjamin, Noémie et Monsieur le Maireur, jardinier des tombes du Commonwealth.
En fait, il nous explique un peu sa vie, pourquoi il aime la guerre mondiale.
Éric le Maireur est un jardinier, mais pas
n'importe lequel. Lui, il entretient les tombes de cimetière du Commonwealth.
Né à Cambrai le 15 décembre 1963, Éric Lemaireur habite à Villers-lès-Cagnicourt. Il est marié et il a trois filles.
Sa passion, c'est de jardiner, mais aussi de pêcher, de faire du sport et de jouer au foot avec sa fille.
Il travaille en tant que jardinier agriculteur à la CWGC de Beaurain, le Commonwealth Wildlife Commission, ce qui veut dire la commission des sépultures de guerre du Commonwealth. Il a beaucoup de cimetières du Commonwealth dans la région, car pendant la Première Guerre mondiale, plein de soldats anglais, australiens, canadiens, néo-zélandais, etc. sont venus le combattre ici.
Parce qu'il s'occupe des tombes d'avant.
Et du coup,
la Première Guerre mondiale.
Bah oui, parce que sinon, qui va s'en occuper, qui est-ce qui pourra aller en prendre soin de leur corps, de leur sang.
Monsieur le maire, tombe. Les pelouses des cimetières, il arrose les fleurs et il nettoie les tombes.
Il nous a expliqué qu'il adore son métier et qu'il ne le trouve pas triste.
Ils ont aidé la France.
Ils sont morts sur le champ de bataille et pour les remercier, on prend soin de leur corps. Et sinon, c'est comme si c'était un chat et qu'on l'enfermait dans une poubelle, qu'on ne s'occupe pas de lui.
Bonjour monsieur et madame Taupart, nous sommes des élèves d'Aide de cours les Cagnicourt. Nous avons vu dans un journal qu'il y a une de vos salles qui a été baptisée du nom de Percy Cherry, un jeune Australien mort en 1916. Nous voudrions vous interviewer pour faire un portrait de vous si vous êtes d'accord.
Simon, Gabin, Amélia et les Taupart, les châtelains d'Aide de cours.
Que le château d'Anne de Cour, c'était un hôpital à la guerre 14-18.
Je suis née au village d'Anne de Cour.
Ta famille est là depuis
et ma famille est là depuis le 13e siècle.
Depuis combien de temps avez-vous le château ?
Depuis le 13e siècle.
Il a été détruit et il a été reconstruit. On avait vu des photos.
Comment avez-vous su que le château a été un hôpital durant la guerre 14-18 ?
On a retrouvé des corps de soldats blessés français. Il faut savoir que nous sommes le long de la ligne d'Edinburgh, qui a eu des milliers de blessés, de tués bien sûr, mais de blessés. Et il y avait une batterie allemande à Noreuil, qui a bombardé le château, mais également la ferme du château, où il y aurait, paraît-il, environ 450 blessés qui ont été exterminés, dont une grande partie a été enterrée provisoirement dans ce qui a servi de potager. On a retrouvé encore, il y a quelques années, des squelettes de soldats australiens et canadiens, et on les a reconnus à leurs boutons et à leurs médailles qui étaient métalliques, contrairement aux médailles de militaires français qui étaient en carton dur.
Vous les avez interviewés, ça a duré longtemps ?
45 minutes.
C'est beaucoup, vous pensez ?
Oui.
Après, ils nous ont montré la plaque de Percy Cherry.
Ils nous ont tout dit sur lui.
Donc c'est le début de la percée de la ligne Edinburgh qui s'est faite à Hendecourt. Ça, c'est le Canadien qui a écrit pas mal de livres.
Michel Dravel,
qui a écrit des livres, etc., qui est venu un jour, on ne l'attendait pas du tout, il pleuvait, et il arrivait comme s'il connaissait le parc du château comme sa poche. Alors, on était sidérés.
Mieux que nous,
avec des cartes d'état-major, etc. Il nous a expliqué. Et si un jour, vous avez la chance de rencontrer ce monsieur, il est vraiment passionnant, extraordinaire. Mais ce qu'il faut savoir, C'est cette bataille de Bullecourt, c'est tous les villages, c'est pas seulement Bullecourt, c'est pas un point fixe, parce que ça bougeait tout le temps. On avançait de 500 mètres, on reculait d'un kilomètre. Le lendemain, on prenait un kilomètre devant, d'autre côté, on reculait de 500 mètres. Les tranchées n'étaient pas en ligne droite.
Est-ce que vous savez comment Percy Thierry était devenu capitaine
Tu sais, à la guerre, un militaire, bien souvent, quand, mettons, le capitaine est tué au combat, c'est le lieutenant qui prend le grade de capitaine, mais virtuel. C'est pas par décret de l'armée, etc., pour continuer à commander la compagnie. Si lui est tué à son tour, c'est le lieutenant. Et si c'est le lieutenant qui est tué encore à son tour, c'est l'adjudant. D'accord ? Donc il a été fait par ses camarades, capitaine, quelques instants avant sa mort.
Et comment Percy Thierry a-t-il eu ses médailles ?
Grâce à son courage, parce qu'il n'a jamais reculé, il a toujours
avancé
devant. Toujours, voilà.
Il a voulu continuer la guerre, mais en fait il a été blessé
plein
de fois, et il s'est pris une balle dans la jambe peut-être et il est mort.
Oui.
Tu vois la personne ? Tu vois, par exemple, à quoi elle ressemble. Si t'as pas bien compris, tu peux demander qu'il répète, etc. Aussi, tu peux voir si ça lui intéresse vraiment de te le dire.
Je connaissais déjà un peu l'histoire, parce que je m'y étais intéressé auparavant. Et puis je connaissais déjà M. Gravel, le musée de Bullecourt aussi, je l'avais visité également. Donc je savais un peu qu'il y avait eu des combats ici qui s'étaient déroulés. Ça m'a intéressé de travailler dans ce sens-là avec les enfants, justement, pour qu'ils puissent se rendre compte que leur petit bout de territoire ici, en fait, pour nous, c'est pas grand-chose. Au niveau de la France, peut-être que c'est pas très connu, mais au niveau du monde, en Australie, au Canada, ce sont des endroits connus pour ces gens-là.
Cérémonie publique, vie de famille, de la mémoire privée à la mémoire collective. La mémoire collective est souvent fragile. Parfois, il ne reste d'elle qu'un vague nom de rue ou une photo floue. Mais, on le verra dans cette quatrième partie, certaines personnes en font une mission personnelle. Transmettre, c'est un pas individuel vers le collectif.
C'est une personne qui a assisté au Anzac Day.
Luna, Jules, Paulin et Monsieur Laude, anciens maires qui veillent.
Comment avez-vous eu cette passion pour la Première Guerre mondiale ?
D'après mon père déjà et mes grands-parents. Il y a quelque chose peut-être que vous ne savez pas. Dans les livres d'histoire, on ne parle pas de la guerre d'ici, de Bullecourt, de tout ça. Et moi, ça m'avait intrigué avec Jean Letaille. Donc, en 1980, on a commencé à répertorier tout ce qu'on pouvait rassembler comme avoir des relations avec des anciens militaires et tout ça. Et c'est comme ça que c'est venu. Et c'est par là que le musée a commencé à se faire à la mairie.
Assez vieux.
Pas très grand, mais pas très gros. Les cheveux rasés au milieu, mais sur les côtés un peu de gris.
Les cheveux gris. Pourriez-vous nous dire plus de choses sur votre connaissance sur la Première Guerre mondiale ?
C'est-à-dire que les Australiens ont perdu plus de 10 000 hommes, 10 600 hommes à Bullecourt. Les Anglais, 8 000. Et les Allemands aussi, 8 000. Ça fait 26 000 tués sur Bullecourt, entre Bullecourt et Riencourt. Dont encore 2000 et quelques qui n'ont jamais été retrouvés. Ils sont en principe encore en terre. Ça vous paraît quand même énorme, hein ? Et par contre, dans les livres d'histoire, on n'en parlait pas.
Il avait une veste de l'Anzac Day.
C'est une fête pour les Canadiens, pour se rappeler de la Première Guerre mondiale et qui sont venus
nous aider
à Bullecourt, à Riencourt et dans tous les petits villages.
Sinon, on serait peut-être déjà des Allemands.
Bullecourt ne devait pas être reconstruit. Il était classé en zone rouge, comme Verdun, comme tout. On a commencé seulement à reconstruire en 1920. Bullecourt, qui avait 450 habitants avant la guerre, il n'y en avait plus que 120, parce que tout le monde, il n'y avait plus personne à Bullecourt. Plus un Personne, tout était démoli. Alors tous les gens étaient partis, beaucoup en Vendée, après en Alsace, puis un peu partout en France. Et quand c'était la fin de la guerre, les gosses sont revenus. Mais quand ils ont vu ce qui s'était passé, et comme c'était démoli, il n'y en a que 120 qui sont restés. Tous les autres sont repartis où ils étaient, parce qu'ils avaient trouvé du travail, ils avaient retrouvé une autre vie. Et Bulcourt a été reconstruit, surtout par les Chinois. Les Chinois qui étaient là, ça a été reconstruit. Ben, d'abord, le musée de Jean Letaille, si jamais vous y allez un jour, vous verrez, les briques ne sont pas systématiquement bien placées. C'est comme ça leur venait à l'idée. Ça tient, la preuve, c'est qu'ils tiennent encore.
Le fait d'ouvrir l'école, c'est bien aussi, puisque ça permet de voir aux gens que l'école, ce n'est pas un lieu fermé dans lequel on travaille dans un monde clos, mais justement, cette ouverture au monde, je pense qu'il est nécessaire actuellement. Et Madame Taupard, qui nous racontait qu'elle était jeune élève, qu'elle était venue dans cette classe il y a, je ne sais plus, 30 ou 40 ans, donc qui était très contente de revenir sur les lieux de son enfance. Et puis également Madame Durand, qui avait enseigné dans la classe dans laquelle je suis actuellement, qui était très contente aussi, je pense, de revenir.
Nathan et moi, au départ, on devait chercher sur des infirmiers, mais comme on n'avait pas trouvé, et ben Madame Bulot a dit que on pouvait chercher des informations sur son arrière-grand-père. Et donc, on a cherché des informations et on en a eu quand même beaucoup.
Yann, Victoria, Nathan et Jules Foulon, l'arrière-grand-père de la maîtresse.
Jules-Louis Foulon est né à Oisy-le-Verger en 1879, pendant la Première Guerre mondiale. Il a été blessé au haut bras gauche. Il était très courageux. Comme information, on a ses deux médailles. Après, on a deux photos de lui.
La description de sa blessure. On a sa carte d'identité. Puis après, on a sa carte de combattant.
C'est l'arrière-arrière-grand-mère de Madame qui a donné toutes ses inspirations sur Jules Foulon à Madame.
Vous imaginez, vous, dans 100 ans, est-ce que vos arrière-arrière-petits-enfants, ils auront gardé vos cartes d'identité, vous croyez ?
Moi, j'espère.
Jules Foulon faisait 1m68 et portait la moustache comme beaucoup de gens à l'époque. Il avait des yeux gris. Il s'est marié en 1910 et a eu deux enfants. Il était ouvrier agricole. Il avait 35 ans quand la guerre a commencé. Comme tous les soldats, il pensait qu'elle ne durerait pas longtemps. Il a été enrôlé dans le 5e régiment d'infanterie territoriale et il a participé à la bataille de Verdun. C'est là qu'il a été blessé au bras gauche. Cela l'a rendu invalide à 40%.
Bah, je trouve que ceux qui disent que ceux qui sont racistes, ça se fait pas parce que il faudrait pas qu'ils soient racistes, ouais. Parce qu'ils nous ont aidés. S'ils sont racistes, bah, ils auraient dû pas aider ceux qui sont racistes.
Ils ont pas de respect.
Après la guerre, en 1920, il est devenu garde champêtre à Oisy-le-Verger.
Alors je me suis piquée au jeu. C'est vrai que c'est passionnant. On a l'impression d'être des détectives privés, de faire des recherches. Enfin, c'est très intéressant. Nous avons voulu faire le portrait du maire de Riencourt-les-Canicourt et malheureusement, on a eu très peu de matière pour faire un portrait. Et donc, on s'est rabattu sur le maire de Clichy-la-Garenne, qui est une plus grosse ville avec un service archive. Et donc, on a essayé de contacter cette commune. Et le service des archives nous a envoyé tous les documents nécessaires sur le maire en place au moment de la Première Guerre mondiale. Et il a décidé d'aider le village de Riencourt-les-Canicourt. Donc c'était un petit peu la marraine de ce village.
Romain, Olivia et Monsieur Gauthier, histoire du sauvetage d'un village.
Ben, ma maman m'en a souvent parlé quand j'avais 6 ans. À 6 ans, sinon à 5 ans, je ne savais pas du tout. C'est triste. Ils vont peut-être dans un autre village pour se réfugier, mais si l'autre village il est détruit, ça va pas. Sinon, c'est encore les autres gens qui vont aller dans un autre village. etc., etc. Ernest Louis Gaudier, 1864-1941, fabricant de toiles maritimes, maire de Clichy-la-Garenne, 1908-1925.
Il a appelé des gens, ils ont aidé pour le construire.
Je pense qu'il a envoyé une lettre avec plein d'argent pour payer les ouvriers et reconstruire le village. En 1919, le maire de Clichy-la-Garenne a choisi de parrainer un des 1000 villages totalement détruits pendant la Première Guerre mondiale. Il a décidé d'aider rien quand les Canicourt, rasés par les bombes, mais grâce à Clichy et à Monsieur Ernest-Louis Gaudier, le village a pu se reconstruire. En remerciement, Riencourt a appelé sa rue principale rue de Clichy.
Et alors sans lui, il n'y aurait pas Riencourt-les-Canicourt, c'est ça?
Oui.
Il y aurait quoi à la place?
Rien. Il y avait des arbres ou un champ, des champs.
Je pense aussi des champs ou bien des ruines.
Il n'y aurait pas l'école?
Non.
Et vous, vous seriez où alors?
On flotterait en l'air.
C'est un monsieur qui surveille le monument aux morts et qui s'occupe aussi du don du sang.
Erwan, Lisiane, Tom, Valentino et Monsieur Fournier, garde d'honneur au grand cœur.
Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre date de naissance?
Le 13 novembre 1947.
Où êtes-vous né?
À Hennecourt, les Canicourt.
Quel est votre métier?
J'étais soudeur à Bière-Saint-Vaux.
Vous faites partie des gardes d'honneur de Lorette. Qu'est-ce que c'est qu'un garde d'honneur?
Un garde d'honneur, bah, c'est fictif, hein, c'est le garde d'honneur. Hein, c'est pas, il va pas garder le monument et tout, quoi. C'est l'honneur, c'est pour faire un honneur. Hein.
Alors, Monsieur Fournier, c'est une figure locale, puisque c'est un monsieur qui est très impliqué dans tout ce qui est les commémorations sur les deux guerres mondiales. C'est lui qui gère plus ou moins les commémorations du 11 novembre et du 8 mai 1945. Et puis, il est garde d'honneur de Lorette. C'est une nécropole nationale où il y a des milliers de jeunes Français qui sont enterrés. Et pour lui, ça a été très important de venir partager cette expérience avec les enfants.
Pourquoi et comment êtes-vous devenu garde de Lorette?
Et j'avais dit à mon père que j'aurais été garde d'honneur. Lui, il était pauvre. Hein. Il ne pouvait pas, il n'avait pas le temps hein, non plus. Il était ouvrier agricole, il ne pouvait pas se permettre de... Mon père, il a été fait prisonnier de guerre, pas prisonnier déporté, hein. Prisonnier de guerre. Donc ça veut dire, pendant son service militaire, ils ont été faits prisonniers à Yanche. Ouais.
Et ça vous a marqué?
Ah ouais.
La guerre, elle a fait partie de votre vie, Thomas,
ouais. Oui. Il a parti 5 ans.
5 ans.
Et pas beau. Ouais.
J'étais content. Et quand il a parlé de son papa, j'étais un peu triste, mais sinon j'étais content. Bah parce qu'il a dit que son papa, il était en prison et qu'il a pleuré.
Vous voulez transmettre cela aux enfants comme nous, pourquoi?
Oui. Bah pour que vous soyez informés de ce qui s'est passé pendant la guerre. Et puis si vous aviez peut-être, parce que vous avez peut-être un nom qui est marqué sur la plaque, hein. Des Camiers, des Wattel, des tout ça, il y en a là-bas.
Un grand monsieur, très costaud, et puis par rapport aux enfants, il leur faisait un peu peur au début, il avait même mis son béret de garde de Lorette, et c'était assez impressionnant pour eux, et puis finalement, ils se sont rendus compte que derrière ce personnage, qui était apparemment très fort, et bien, c'était une âme très sensible, en fait, qui se cachait derrière lui.
Le temps passe, et au bout de 3 mois de recherche et d'interview, nos apprentis journalistes se sont fait dire pub et maquettistes, et ils ont disposé sur de grandes feuilles de papier photos, textes, retranscriptions d'entretiens, enfin tout ce qu'ils avaient appris sur les personnes qu'ils avaient choisies. Cette galerie de portraits est désormais exposée à l'école, mais aussi dans certaines mairies de la région. Les vacances approchaient, les objectifs pédagogiques étaient remplis.
Soufflez-moi, soufflez-moi.
l'histoire, le français, et travailler aussi en groupe, donc ça c'est important. Donc c'est un projet transversal, c'est-à-dire qu'on travaille toutes les matières en même temps, donc c'est très formateur.
On nous demande de travailler beaucoup sur la transversalité et puis sur des projets justement qui peuvent amener les enfants à travailler dans plusieurs domaines. Donc c'était à eux de mener à bien leur enquête, à eux de mener à bien la présentation et la restitution de leur enquête. Donc il y a tout un travail qui s'est fait autour des recherches, la prise d'interview, comment mener une interview, comment élaborer une lettre d'invitation pour les personnes qu'on allait interviewer, ensuite comment restituer cette interview, comment le présenter, et puis comment réaliser des portraits. Donc il y a tout un travail en français qui s'est fait autour de ça, un travail en oral également, puisque l'interview, c'était un travail autour de l'oral également, et puis un travail historique et géographique, puisque naturellement, on a parlé de la guerre 14-18, des différents lieux de combat, et puis naturellement des lieux d'où venaient les soldats, de l'Australie, du Canada, du Japon, etc.
Quant aux enfants, si certains confondent toujours la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ils ont brassé toutes sortes de pratiques et de notions.
Est-ce que ça fonctionne ?
C'est nos ancêtres. À la Première Guerre mondiale, il y avait nos ancêtres et il y avait des histoires qu'on doit apprendre, qu'on doit découvrir.
J'ai dit à Simon que, en fait, j'allais faire l'interview, mais j'étais stressée parce que je savais pas quoi dire au début, je m'en souvenais plus.
Moi, je prenais les photos. Il faut faire attention à la lumière, aussi à l'emplacement.
Moi, je prenais l'enregistreur avec le petit micro. Là.
Et c'était facile ?
Non, pas du tout, parce que ça faisait ça. Bah, aller dans tous les sens.
Pendant la guerre, il y a eu beaucoup de morts. Plus de 3000 ou moins, mais je ne sais plus.
En fait, vu qu'on avait demandé des photos à Michel Gravel, il nous en a envoyé deux. Du coup, on a fait deux carrés de la taille, enfin d'une taille. Puis du coup, c'est là où on va mettre les photos.
Je sais pas comment ça marche, ce machin, truc.
On peut interviewer des gens et on peut savoir plus sur la guerre.
Non, aussi sur la politique, par exemple.
Sur les attentats, par exemple. Sur un sport.
J'allais dire sur des sports.
Sur les plantes.
Sur quoi tu ferais une interview ?
Je sais pas ce qu'on me proposerait.
Par exemple, sur les conducteurs de train, par exemple.
Puis en fait, c'était à cause des enfants qui, dès qu'ils trouvaient des bouts de cuir, je sais pas trop, des cuivres, et comme ça, ils pouvaient s'acheter des vélos avec.
On dirait une enquête policière de tout regrouper, couper et tout.
Alors voilà, je vous remercie de toutes les questions que vous m'avez posées et maintenant j'en ai une pour vous. Je voudrais savoir si quelqu'un sait pourquoi le Canberra, que j'ai appelé mon café le Canberra. Que signifie Canberra pour vous ?
Il y avait des fiches, c'était pas les mêmes prénoms et pas les mêmes métiers, mais la même histoire et les mêmes photos, donc on ne savait pas vraiment qui était la vraie personne et qui...
Et nous on a pris Jack.
Surtout qu'on a personne qui... Il n'y a que Jack White qui pourrait nous dire s'il a vraiment existé tout ça. Après, on n'est pas sûr.
Il y a eu plusieurs morts, il y en a plusieurs qui nous ont aidés. J'en savais quelques-uns, mais pas tous. Maintenant, je sais qu'il ne faut plus faire la guerre.
J'ai plus de questions.
Grâce à eux, j'ai découvert une histoire qui m'était inconnue. Celle de la bataille de Bulcourt, tombée dans l'oubli, puis ressurgie de la terre, et qui a créé depuis un siècle des relations uniques d'un bout à l'autre du monde. C'était Galerie de guerre, une émission enregistrée avec les enfants et les enseignants du Rassemblement pédagogique intercommunal de Riencourt-les-Canicourt, Hennecourt-les-Canicourt et Villers-les-Canicourt. Réalisée par Hélène Alex au cours de sa résidence de journaliste sur la communauté de communes au Sartis-Marquion en 2017. Musique, Advance Australia Fair, l'hymne national de l'Australie. Fela Kuti, Sorrow, Blood and Fear, Andrew King, Have You News of My Boy Jack, et Toto Bissinthe, Souffle-Long.